BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brack.
Et c'est reparti pour BFM Bourse, on est ensemble jusqu'à 18h pour vous accompagner dans cette séance qui se passe très bien à la Bourse de Paris. Aude Kersulec nous accompagne, c'est notre fil rouge tout au long de cette émission depuis Euronext avec Aude, un CAC 40 qui est bien parti pour signer aujourd'hui une cinquième séance dans le vert.
Eh oui, on est toujours en hausse de 0,5%, 8175 points. On est à 75 points maintenant de notre plus haut historique, alors que le CAC 40 dividendes réinvestis et lui hein, sur ses plus hauts sommets. Pourtant, ce n'était pas évident en début de journée. On a commencé d'ailleurs dans le rouge. Et c'est vrai que c'est plutôt cette décision de la Banque d'Angleterre qui nous a bien libérés, qui a permis au marché européen de monter. Alors que la tendance à Wall Street est quand même beaucoup plus mitigée en ce moment. On a notamment le Nasdaq qui continue de se replier.
Dans un instant, vous nous parlerez également de BBVA qui veut lancer une OPA, OPA hostile sur Sabadell. Et le gouvernement espagnol qui n'est pas du tout favorable à cette opération. Dans un instant, on sera également avec les équipes de Swiss Life Banque Privée, Aurélien Auton qui reviendra sur la publication de Alstom. Souvenez-vous, hier, la valeur avait gagné un peu plus de 9%. Et puis, tiens, un titre qui fait une grimace aujourd'hui, c'est Airbnb qui perd plus de 6% à Wall Street. Julien Marion de notre site BFM Bourse sera avec nous à partir de 16h30 pour revenir sur cette publication et puis surtout sur les perspectives qui déçoivent les investisseurs. Et puis, jusqu'à 18h, nous reviendrons bien sûr sur la Banque d'Angleterre qui ouvre la voie à de nouvelles baisses de taux. Et puis sur l'allocation de votre portefeuille, c'est Sébastien Corchia et puis aussi les équipes de JP Morgan Asset Management, Vincent Juvins qui sera avec nous à partir de 17h dans le club pour vous aider à comprendre l'environnement actuel. C'est parti, c'est BFM Bourse, on est ensemble jusqu'à 18h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et donc, Aude, une tendance positive à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui continue de grimper gentiment et qui se rapproche de ses records historiques.
Et c'est vrai que c'est une cinquième séance pour le moment dans le vert. Hein. Et ça se passe bien depuis ce début de semaine. On est optimiste. On était un petit peu plus prudent en début de journée avant cette décision de la Banque d'Angleterre, alors qui était attendue hein, sur le statut actuel des taux, hein, le statu quo justement, les taux qui restent encore stables. Mais il y a eu un message quand même envoyé aux investisseurs, notamment la Banque d'Angleterre qui a revu à la baisse ses prévisions d'inflation, ce qui voulait dire que les estimations hein, que faisait le marché sur ces baisses de taux étaient un petit peu conservatrices. Alors beaucoup espèrent maintenant une baisse dès le mois de juin. Ce qu'on sait, hein, c'est qu'il y a eu quand même des divergences au sein du conseil des membres des gouverneurs à la Banque d'Angleterre. On en a 2 sur 7 qui voulaient baisser dès cette réunion, donc dès le mois de mai. Et ils pourraient rallier d'autres membres hein, d'ici au mois de juin, au mois prochain. Sachant que Andrew Bailey, le gouverneur, a dit qu'il fallait rallier d'autres membres. En tout cas, ça a créé de l'optimisme ici hein, sur les marchés européens. On monte de plus de 1% sur le DAX à Francfort, de 0,2% sur l'Eurostoxx 50 et puis sur le CAC 40. Alors, on a eu Renault qui faisait la course en tête pendant un bon moment de la journée, en hausse de plus de 1% avec une annonce hein, du fait qu'on allait profiter chez Renault des bons résultats de Nissan. Et puis finalement, Renault qui a été doublé par tout un tas d'autres valeurs. On a Carrefour et Bouygues qui sont en tête de l'indice avec quasiment des hausses de 2%. Et puis Stellantis aussi qui était vraiment dans le mal ces derniers jours qui reprend aujourd'hui 1,8%, alors que du côté des baisses, on a Accor, Veolia ou encore LVMH, tiens le luxe qui s'affiche du mauvais côté du tableau aujourd'hui.
Mais néanmoins, le CAC 40 est sur une note positive, donc avec un gain de 0,5%. Vous restez avec nous, Aude. Dans un instant, on parlera de BBVA qui perd quasiment 6% à Madrid. Mais juste avant, c'est Aurélien Auton qui nous fait le plaisir d'être là, gérant chez Swiss Life Banque Privée. Bonjour Aurélien Auton, merci de répondre à l'appel de BFM Business en ce pont du mois de mai. Bah, pour revenir justement sur la publication de la semaine, en tout cas pour l'instant c'est la grosse publication à Paris, Alstom hier qui a dévoilé ses résultats puis qui a dans le même temps dévoilé son plan de désendettement.
Oui, oui. Alors pour comprendre, faut revenir un peu en arrière. Il faut revenir au mois d'octobre. Au mois d'octobre, Alstom avait communiqué un free cash flow négatif de plus de 1 milliard d'euros et avait averti sur ses résultats, ce qui avait entraîné une baisse du cours de bourse de pratiquement 40% sur la séance. En fait, cette publication, elle avait mis en avant les deux principaux maux d'Alstom, un problème de bilan avec une dette qui est de 3 milliards d'euros à fin mars, et également un problème d'exécution, puisque au-delà des contrats non margés de hérités de Bombardier, Alstom affiche des retards parfois importants dans l'exécution de certains de ses contrats. S'en était suivi donc un risque de dégradation de la note de crédit par Moody's, et ça avait poussé Alstom à étudier différentes pistes pour renforcer son bilan, avec alors d'une part des efforts en interne, on parle de 1500 réductions de postes, et d'autre part des mesures inorganiques qui ont été, vous l'avez dit, communiquées hier. Alors quand on regarde dans le détail, on a 2 milliards d'euros de mesures inorganiques, 700 millions d'euros sur les cessions, avec notamment ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines, la signalisation qui a été cédée aux États-Unis, 750 millions d'euros sur de la dette hybride, donc c'est considéré comme du capital pour moitié, et enfin on a 1 milliard d'euros d'augmentation de capital à laquelle les principaux actionnaires, donc la Caisse des dépôts et la BPI, se sont engagés à souscrire. Donc au global, c'est des chiffres qui sont plutôt dans le haut de la fourchette de ce qui était attendu, et ça clôt, de mon point de vue, le problème numéro un, donc les difficultés concernant le bilan. Il reste maintenant le second problème sur lequel Alstom va devoir rassurer, c'est des problèmes d'exécution. C'est maintenant l'enjeu principal, puisque c'est ce qui déterminera la capacité d'Alstom à générer de la trésorerie maintenant de façon structurelle. Alors il y a déjà des mesures qui ont été prises, notamment en termes de gouvernance, les choses vont être les fonctions de PDG et de direction générale vont être officiellement séparées au mois de juin. Mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, avant de retenir plus positif sur le dossier, j'attends d'avoir des signaux un petit peu plus clairs sur l'amélioration de l'exécution, qui reste un des points noirs chez Alstom.
Et puis peut-être aussi sur l'augmentation de capital, parce que c'est vrai qu'hier le titre a pris 9%, alors que forcément les actionnaires existants vont se retrouver dilués.
Oui. Alors mais ça, je pense que ça c'était attendu par les investisseurs. On a bien vu d'ailleurs que le cours de bourse depuis le début de l'année, avant ces annonces, avait progressé de pratiquement 30%. Donc cette augmentation de capital, finalement, au global, elle est en ligne avec les attentes. Il n'y a pas de grosses surprises. C'est d'ailleurs ce qui explique que la réaction que vous détaillez hier de le rebond de 9%, c'est effectivement un certain nombre de vendeurs à découvert qui ont acté le renforcement du bilan et qui rachètent leur position. Maintenant la clé pour faire revenir des investisseurs long terme sur le dossier, ça va être la capacité d'Alstom, et ça va prendre du temps à rassurer sur toutes les problématiques d'exécution que j'évoquais, et à faire progresser les marges dans les années qui viennent.
Et après avoir pris 9% hier, le titre cède 3,3% cet après-midi à 16,57€. Donc message plutôt prudent aujourd'hui sur Alstom, Aurélien Auton.
Oui, moi j'attends d'y voir plus clair. J'attends d'y voir plus clair sur l'exécution des contrats. On sait qu'il y a des contrats importants au Royaume-Uni qui sont toujours en difficulté. On sait, et on l'a vu également chez d'autres acteurs, alors c'est pas forcément comparable, mais on a vu que dans d'autres acteurs industriels avec des cycles longs, je pense notamment à Airbus, il y avait, du fait de la désorganisation des chaînes de production qui est encore là, il y avait une tendance à stocker de manière importante, et ce qui pouvait peser sur la génération de trésorerie. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là que j'ai besoin d'être rassuré avant d'être avant d'être plus positif, parce que c'est vrai que Alstom a quand même des qualités, notamment son carnet de commandes qui donne une certaine visibilité au dossier.
Vous restez avec nous, Aurélien Auton. Dans un instant, nous reviendrons sur la publication de Stellantis, qui, on se le rappelle, avait douché les investisseurs la semaine dernière. Mais juste avant, Aude Kersulek nous rappelle depuis Euronext, afin d'aborder ce deal qui visiblement est compliqué en Espagne entre BBVA et Sabadell, au point que le titre BBVA perd 6% à Madrid.
Oui, c'est vrai, ça fait d'ailleurs décrocher l'indice espagnol, hein. L'IBEX, qui est le seul à perdre franchement du terrain en Europe, on perd 1% tout juste. Et c'est vrai que c'est le grand écart dans ces banques ou à l'intérieur de cet indice espagnol, parce que BBVA perd 6% quand Sabadell, hein, qui est le destinataire de cette offre, gagne 3%. Donc en fait, on a BBVA, donc la banque basque, qui revient à la charge pour racheter Sabadell après une offre amicale, hein, qui a été rejetée en début de semaine. Cette fois-ci, c'est une offre hostile. Les conditions de prix sont les mêmes. Elles n'ont pas été améliorées. L'offre, elle est valorisée à 2,12 euros par titre pour Sabadell. Alors, elle est présentée comme le président de BBVA comme étant très attractif, comme permettant de constituer un géant bancaire indispensable pour l'économie espagnole. Et pour aboutir, donc, cette offre hostile devra être acceptée par les actionnaires de Sabadell. Au moins 50% des actionnaires selon du capital social. Mais ce n'est pas une opération courante, hein, en Espagne, une OPA hostile. Donc ça crispe les investisseurs chez BBVA, qui se délaissent largement de la valeur. On perd plus de 5% cet après-midi. Le gouvernement espagnol, qui lui ne rassure pas du tout, parce qu'il menace de s'opposer à ce rachat. Il met en plus des bâtons dans les roues, hein, déjà, de BBVA. Donc forcément, ça ne rassure pas. Sabadell, en revanche, s'en sort gagnant cet après-midi en bourse, notamment dans leur communication. Alors là, ils ont annoncé qu'ils rejetaient l'offre hostile, enfin en tout cas qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils avaient communiqué lundi en disant que l'offre de BBVA sous-évaluait leur groupe, que eux étaient en mesure de créer davantage de valeur pour les actionnaires s'ils restaient indépendants. Le titre vaut pour le moment 1,85 €. Il a donc été valorisé 2,12 € par BBVA, et leur optimisme et leur potentiel de hausse chez Sabadell, ça fait monter le titre, hein, pour le moment. Cet après-midi, les investisseurs qui sont donc à l'achat sur Sabadell en attendant le dénouement de ce dossier.
Et ce dossier, on en reparlera dans On refait la séance à partir de 17h30. Merci beaucoup, Aude Kersulek, de nous avoir accompagné, notre fil rouge depuis Euronext, afin donc de suivre cette tendance en Europe qui est donc positive, avec un CAC 40 qui enchaîne une cinquième séance dans le vert. Aurélien Auton, il nous reste deux minutes quand même pour aborder le secteur automobile, qui est vraiment le secteur qui a déçu en Europe lors de la publication des résultats trimestriels. On l'a vu hier avec BMW, avec Mercedes, et puis surtout la semaine dernière avec Stellantis, qui a quand même perdu 10% après la publication de ses perspectives.
Oui. Bah moi, je pense que cette baisse, c'est plutôt une opportunité pour se repositionner à l'achat. Ce qui a pesé sur le cours à la suite de cette publication, c'est des discours assez prudents sur les marges de Stellantis, hein, qui table sur des marges comprises entre 10 et 11% au premier semestre. Donc, certes, c'est en baisse, mais ça reste quand même très nettement au-dessus des autres constructeurs généralistes. Surtout qu'on va avoir un certain nombre de lancement sur le deuxième semestre et des effets de base beaucoup plus favorables sur la deuxième partie de l'année. Stellantis, c'est quand même une exposition géographique que je trouve assez favorable, hein, puisqu'ils sont peu présents en Chine où la concurrence est vive. Et puis, il y a surtout une situation financière qui est quand même particulièrement solide. En fin 2023, on avait 30 milliards d'euros de trésorerie au bilan. On va en générer encore pratiquement 10 milliards d'euros cette année, ce qui va quand même permettre de monter en puissance sur le retour à l'actionnaire. Et puis malgré tous ces éléments positifs, on a une valorisation qui reste déprimée à 4 fois les résultats attendus cette année. J'ai plutôt le sentiment que c'est une opportunité d'achat.
Et ce titre qui reprend du terrain aujourd'hui, c'est l'une des plus fortes hausses du CAC 40, plus 2% pour Stellantis, qui retrouve les 20 euros. Merci beaucoup, Aurélien Auton, de nous avoir accompagné, gérant senior chez Swiss Life Banque Privée. On vous retrouvera dans un peu plus d'une heure à partir de 17h30 pour refaire la séance.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Culture Bourse, comme tous les jours sur BFM Business, on vous aide. Pédagogie financière pour investir en bourse avec notamment Benjamin Chemla, CEO et cofondateur de Chairs, qui revenait hier sur ce plateau, sur BFM Business, sur les différentes alternatives pour investir en bourse, assurance vie, PEA, PER et même compte titres.
Accrochez-vous, Étienne, sur votre chaise, ça va être intense. On parle souvent ici, à votre antenne, dans quoi investir. On essaie de répondre à cette question. Aujourd'hui, on va adresser une autre question qui est comment, dans quel type d'enveloppe investir. Effectivement, la réponse va fluctuer selon l'objectif. C'est déjà la première information importante. Est-ce qu'on est sur une logique de long terme? Est-ce qu'on est sur une logique plutôt passive ou une logique plutôt active? Donc, selon cette réponse, on va envisager aujourd'hui quatre enveloppes. L'assurance vie, d'une part, donc on va voir qui est intéressant dans une logique notamment de transmission. On va envisager aussi le PEA, plan d'épargne action, que l'on connaît bien, mais on va rentrer un peu dans le détail, qui est intéressant notamment dans ses exonérations. On va parler aussi du PER, qui est arrivé en 2019, le plan d'épargne retraite, qui est intéressant. Il peut être individuel ou collectif s'il est fourni par votre entreprise. Et enfin, le classique, le compte-titres, qui offre une certaine agilité, mais finalement peu d'intérêt au niveau de sa fiscalité. Alors d'abord, si vous le voulez bien, la disponibilité, qui est un point important. Parce que quand on investit, on se pose souvent la question et quid si je veux récupérer mon argent? Eh bien, la réponse n'est pas la même. Aujourd'hui, il y a une enveloppe, le PER, au sein de laquelle votre épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Donc ça, c'est un point important à préciser. Elle est bloquée, il y a évidemment des cas de déblocage anticipé, typiquement en cas d'achat de résidence principale, en cas malheureux de décès de votre conjoint. Il y a d'autres cas de figure comme la fin de vos allocations chômage. Il y a en fait deux autres qui sont dispo en permanence, donc l'assurance vie et le compte titre, vous pouvez retirer votre argent en permanence. Le PEA, enfin, il y a la règle des 5 ans. Si vous retirez avant 5 ans, eh bien tout simplement, vous allez perdre les avantages fiscaux et devoir clôturer votre PEA. Après les 5 ans, en revanche, vous êtes exonéré de toute imposition sur votre plus-value. Maintenant, les règles et les limites, alors ça c'est important, il n'y a aucun plafond au sein des assurances vie dans le PER et dans le compte titre. En revanche, le PEA, lui, il a quelques limites. On ne peut avoir qu'un seul PEA et on est limité à 150 000 euros initialement d'investissement. Alors on le comprend puisque il n'y a pas de taxation, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values qu'on réalise. Donc forcément, il fallait une limite. Dans le cas du PEA-PME, on va avoir jusqu'à 225 000. Voilà au niveau des règles.
Et en plus de ça, sur le PEA, on ne peut pas acheter n'importe quelle action. Hein, ça, c'est aussi
alors,
une règle
ça,
à avoir en compte.
La question suivante, c'est dans quoi on peut investir? Vous avez raison, parce que tout ça est important. Donc, il y a une origine assurancielle dans l'enveloppe assurance-vie et l'enveloppe PER. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment, on va pouvoir avoir accès à un produit que les Français aiment beaucoup, qui est le fonds euro. Les Français aiment beaucoup le fonds euro parce qu'historiquement, il est sécurisé. C'est un investissement sur lequel, a priori, on ne peut pas perdre. En revanche, les rendements sont plus limités. Je crois que dernièrement, on était plus ou moins autour des 3%. Donc, ce qui est inférieur, donc net de charges, net de frais, 3%, c'est inférieur à l'inflation. De l'autre côté, dans quoi on peut investir quand il s'agit d'un PEA? Eh bien, dans des actions en direct. Et c'est ça qui va intéresser peut-être nos auditeurs, enfin nos téléspectateurs. On peut investir dans des actions en direct, pourvu qu'elles soient européennes. Donc il y a quand même une limite. On ne va pas pouvoir investir dans Netflix ou dans Amazon. Et non fractionnées, pour ceux qui aiment, comme Shares, les plateformes de néo-brokerage. C'est là où, évidemment, il y a un avantage pour le compte-titres, qui lui offre une plus grande flexibilité. Il n'y a pas d'avantages fiscaux, mais on peut investir dans une grande variété de produits en direct, y compris des actions américaines ou des actions fractionnées, donc dès 1 euro, qu'on a pu évoquer sur cette antenne à quelques reprises. On peut de toute manière rappeler qu'il est possible de s'exposer au sein d'un PEA à des marchés américains via le panier d'actions qui est l'ETF, également qu'on avait pu évoquer ici. Donc c'est important, hein, cette logique, j'investis en direct ou j'investis par l'intermédiaire d'un fonds ou d'une, ce qu'on appelle une unité de compte dans l'assurance vie ou dans le PER. La fiscalité. Alors ça, c'est le gros morceau qui motive un peu cette chronique aujourd'hui. Évidemment, quand il s'agit d'un compte-titres, on va commencer par le plus simple. Le compte-titres n'offre aucun avantage d'un point de vue fiscal. Il y a une flat tax de 30% sur les gains réalisés. Alors, il y a quand même un point à préciser, c'est qu'il peut y avoir un intérêt à faire un compte-titres pro. Si vous êtes un freelanceur, si vous avez une holding, vous pouvez rentrer dans une logique de holding avec le compte-titres qui peut être intéressante. Mais ça mis à part, il n'y a pas d'intérêt à effectivement chercher de la fiscalité, de l'optimisation fiscale dans le compte-titres. En revanche, alors là, c'est intéressant, dans le PEA, on l'a dit, pas de taxation des plus-values. Donc si vous avez une logique un peu agressive, que vous cherchez du rendement et des placements en direct avec un certain objectif, eh bien effectivement le PEA paraît le plus logique. En revanche, si vous êtes dans une logique de transmission, j'insiste, hein, c'est important pour les gens qui nous écoutent, parce que avant 70 ans, l'argent que vous mettez en assurance vie, pourvu qu'il soit resté plus de 8 ans, eh bien, vous avez un abattement jusqu'à 152 000 euros par bénéficiaire en cas de transmission de succession. Je m'explique, si j'ai trois enfants, eh bien, je peux aller jusqu'à 450 000 euros à peu près de transmission avec un abattement total. Donc l'assurance vie est quand même un outil qui est assez pertinent. Il y a aussi des abattements sur la fiscalité annuelle, mais qui sont un peu plus limités. 4 600 pour un célibataire, 9 200 pour un couple. Alors avis à ceux qui hésitent à franchir le pas, demandez votre épouse ou conjoint en mariage, c'est le moment. Les frais, c'est le dernier point important. Alors évidemment, là, les frais, il y a autant de frais que de plateformes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est selon chaque établissement. Mais ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que le PER d'une part et l'assurance vie d'autre part vont plutôt avoir un certain nombre de frais. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut bien scruter ces frais. Des frais d'entrée, des frais d'arbitrage à chaque fois qu'on fait un mouvement, des frais de gestion de contrat, des frais d'UC, donc pas mal de frais hein, qui peuvent être qui font peur. Donc il faut rentrer dans le détail. Là où en revanche, le compte titre généralement va être gratuit.
On
peut en ouvrir plusieurs.
Contrairement au PEA.
On va avoir des frais de transaction, généralement, selon les plateformes qui peuvent être plus ou moins élevées. L'objectif des néo-brokers, c'est d'aller au plus bas. Et puis, enfin, le PEA, eh bien, il y a un point intéressant, c'est que depuis la loi Pacte, les frais sont plafonnés. Donc, ils sont plus aussi élevés. Alors, pareil, chaque plateforme va avoir une logique différente, mais ils ont pas tendance à être aussi significatif et ils peuvent l'être dans d'autres enveloppes.
Peut-être une question sur les moins-values, parce que bon, parfois il y a des coûts qui sont des mauvais coûts et par exemple, parfois on peut déduire les moins-values des plus-values. Ça peut être fiscalement aussi intéressant.
Oui, absolument. Les plus-values et les moins-values, ça fait partie d'une logique. Donc là-dessus, on est à peu près pareil dans l'ensemble des cas de figure. Alors forcément, quand il y a un abattement sur une plus-value, ça ne s'applique pas au sujet de la moins-value. Mais là, pour ce qui est des plus-values et des moins-values, je vous invite à regarder l'histoire du compte titre pro, parce que c'est là où ça devient intéressant en fait d'avoir une logique en holding, puisqu'il faut rappeler que les plus-values ou surtout les moins-values peuvent être directement appliquées sur l'exercice. Et donc pour ceux qui font partie des 4 millions ou 5 millions de freelanceurs qui nous écoutent, en fait vous pouvez utiliser votre holding, votre société pour investir, placer votre trésorerie par l'intermédiaire de ces outils, de ces enveloppes.
Et là, du coup, ça change totalement la fiscalité, hein, puisqu'on passe sur l'imposition des sociétés et on change totalement des barèmes. Hein.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de l'enveloppe, des cas d'investissement. C'est vraiment au cas par cas.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment regarder le sujet avec une approche très au cas par cas. On a tous des objectifs différents, comme évoqué, hein, selon le court terme, le long terme. Je pense que ce qui est important pour ceux qui nous écoutent, c'est que généralement, c'est pas à boire ou à manger, c'est les deux. Mmh. Donc, on invite souvent les gens à faire à ouvrir plusieurs comptes, notamment pour lancer les délais, puisqu'il y a 8 ans, le fameux 8 ans dans l'assurance vie, le fameux 5 ans dans le PEA. Donc, finalement, il y a un peu cette tradition à 18 ans et un jour, on va ouvrir une assurance vie, un PEA, etc., pour commencer à faire courir les délais. Donc c'est un petit peu la logique. Moi j'invite les gens à avoir une logique un peu hybride et avoir un peu de tout selon les objectifs.
Benjamin Chemla qui était avec nous hier sur BFM Business dans BFM Bourse, CEO et cofondateur de Chairs, afin de revenir sur les différentes enveloppes qui permettent d'investir en bourse. Très courte pause, on se retrouve dans un instant. On sera avec Julien Marion de notre site internet BFM Bourse afin de revenir sur le gadin du jour à Wall Street, Airbnb, avec des prévisions qui déçoivent les investisseurs. Ça pèse d'ailleurs sur le titre Accor qui est de loin aujourd'hui la plus forte baisse du CAC 40. Accor cède 2% à 40,63 €. Et puis on reviendra bien sur ce deal qui visiblement bloque en Espagne. BBVA qui souhaite racheter une banque espagnole, le gouvernement qui met son veto. Et puis jusqu'à 18h, on continue de vous apporter des conseils boursiers, des idées de valeur et puis revenir également sur les sociétés qui font l'actualité cette semaine avec bien sûr Alstom qui, rappelez-vous, a pris 9% hier et qui cède un peu plus de 3% aujourd'hui. Très courte pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brac.
À la seconde près, il est 16h30, merci d'être avec nous, c'est BFM Bourse et BFM Business, on est ensemble jusqu'à 18h sur le pont avec dans un instant Jean-Louis Cussac qui nous rejoindra depuis Perceval Finance Conseil, CAC 40 qui s'en sort très bien aujourd'hui. Contrairement à Wall Street, il surperforme très nettement, plus 0,7%, 8186 points, 5e séance dans le vert, beaucoup d'actualités d'entreprise que nous allons traiter avec vous, Julien Mario. Bonjour Julien.
Bonjour Étienne.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste pour notre site BFM Bourse. Dans un instant, on va parler de Airbnb, hein, qui prend un bouillon aujourd'hui à Wall Street après la publication de ses résultats et surtout ses perspectives. Dans le sillage, il y a Accor qui perd un peu plus de 2%. On reviendra bien sûr sur le secteur automobile, hein, qui continue de décevoir en Europe. Et puis sur ARM, ARM, hein, qui perd du terrain à Wall Street après un très beau parcours depuis son introduction en bourse en septembre dernier à Wall Street. Eh bien, le groupe déçoit après la publication de ses résultats trimestriels. Bon, un mot de la tendance quand même. Dans un instant, Jean-Louis Cussac nous parlera des niveaux techniques à surveiller. Mais le CAC 40 dividende réinvesti est sur des plus hauts historiques. Le DAX à Francfort est sur des plus hauts. C'était le cas également hier de la bourse d'Amsterdam. Bon, bref, tout va très bien pour les bourses européennes.
Mais la tendance est même retournée car le CAC 40, il était en légère baisse à la mi-séance en fait. Donc on a un peu pensé que la Banque d'Angleterre a quand même un impact puisque... A priori, elle laisse entrevoir une prochaine baisse des taux. Ça peut porter la tendance. Par ailleurs, aux États-Unis, les inscriptions au chômage, elles sont plus élevées que prévu. Donc, on est encore dans bad news is good news. Je pense que ce sont des éléments qui ont influé positivement, même si c'est vrai que vous avez raison. L'Europe surperforme Wall Street. C'est quand même assez notable. Peut-être parce qu'il y a peut-être un peu plus de poches de valeur à chercher là-bas.
Avec notamment le Nasdaq, hein, qui cède très légèrement du terrain. On en reparlera dans un instant du secteur des semi-conducteurs. Jean-Louis Cussac est donc avec nous, trader pour compte propre, Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Merci d'être avec nous en ce pont du mois de mai pour nous Bonjour. Apporter votre éclairage. Bon, quand même, le marché tient très bien là, il est solide hein, ce marché. On le disait à l'instant avec Julien, cinquième séance dans le vert, le CAC qui surperforme Wall Street avec notamment une belle résilience malgré le secteur du luxe qui sous-performe et qui est même très légèrement dans le rouge aujourd'hui.
Oui, alors on a échangé pour l'instant 850 millions environ là à cette heure-ci. Vous voyez, c'est vraiment très 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 faible. On enfonce un petit peu des portes ouvertes. Bon, c'est un peu logique, un peu normal étant donné cette semaine de pont. Alors nous restons à l'achat. Chaque fois que je passe, je vous le dis, nous sommes toujours acheteurs. Nous achetons sur des replis. Ce matin, par exemple, on a proposé d'acheter à 8113,5 sur le trade du jour. Et depuis, on l'a fait ce niveau. Et puis à 11h30, le marché est parti à la hausse et plus rien ne l'arrête. Il progresse. Là, il vient de gagner en 5 heures à peu près. Il a gagné 0,90%, 0,9%, ce qui est quand même énorme. Et le moteur principal de la hausse des indices actions reste toujours le même, hein, la confiance dans le fait qu'on baissera deux fois les taux cette année aux États-Unis en tout cas. Et bon, on va quand même démarrer avec la BCE. Et ces mouvements. Enfin, ces anticipations suffisent à maintenir un niveau d'intérêt acheteur. Alors, c'est pas énorme, hein. Attention, on voit bien que ça tient à pas grand-chose, notamment aux États-Unis. On a fait des petits retracements, sympathiques d'ailleurs, pour pouvoir acheter aussi les replis. Les marchés restent bien construits, on a une volatilité implicite qui reste à 11 sur juin, c'est pas ridicule. Donc ça prouve bien qu'il y a toujours quand même des... une certaine méfiance et surtout une hyper sélectivité sur les achats actions. C'est vraiment très sélectif. Aujourd'hui, c'est hyper régulier. Vraiment, là, ça va de... ce maximum, c'est 2%. Vous voyez, c'est hyper régulier. On est largement au-dessus des niveaux d'alerte comme 7815. Moi, c'est vraiment le niveau que je vous propose de retenir. 7815 futur mai. Il faudra évidemment en juin revoir les choses avec les dividendes et les taux d'intérêt au début du mois, de l'échéance. C'est un niveau sous lequel on passerait vendeur, mais il est assez loin. Donc voilà, on continue chaque jour à éventuellement laisser porter un solde acheteur, à acheter sur des replis, à la chasse aux bonnes affaires. Il y en a, certainement, on a vu ces derniers temps, des valeurs en retard qui ont été ramassées, comme le secteur automobile qui était vraiment à la ramasse. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, un marché où les investisseurs voient toujours les choses avec sérénité et avec un espoir toujours assez fort que les marchés puissent poursuivre à moyen terme.
Avec des réactions spectaculaires hein, ces derniers jours sur certains dossiers. Hier, Clarion, Excorion a pris 50%. Alstom a pris 9% en ligne droite hier. On se souvient la semaine dernière que Stellantis avait perdu 10% en ligne droite. Ça vous interpelle, ces mouvements brusques et puis surtout très rapides qui se font en quelques minutes?
Ouais, il y a eu de très nombreuses valeurs, hein, Rémy Cointreau et d'autres, mais où ça part point haut, ça va à la baisse, ça part à la baisse, ça revient à la hausse. Enfin, c'est violent. Parfois, on fait deux fois l'écart dans la même séance. C'est difficile. D'abord, on peut se dire que les carnets d'ordre sont pas très remplis. Ensuite, on peut se dire que les avis sont divergents. Et c'est ce que j'avais signalé il y a déjà à peu près 2 mois, c'est cet effet moutonnier qui est un petit peu gênant quand même. Vous voyez, ça montre que la conviction n'est pas là. Donc on est prêt à aller prendre des, acheter des dossiers en se disant ah c'est pas mal, et puis 5 minutes plus tard ah ben c'est pas si bon que ça. Donc on a un peu de spéculation là-dessus sur l'idée qu'on cherche des bonnes affaires. Donc c'est sûr qu'on peut se tromper et voilà, ça amène des mouvements extrêmement importants. Ouais, y a, parmi les valeurs spéculatives, moi je peux vous inviter à regarder CGG. C'est une valeur qui vient de gagner 14% en 3 jours. Elle a beaucoup, et j'en passe, souffert. Mais c'est une recovery. Je lis des perspectives quand même qui sont vraiment en nette amélioration. Alors c'est une capi de 300 millions, hein, c'est pas très important, mais c'est, alors déjà elle vaut en dessous de 1 euro, elle est à 0,45. Donc les gérants n'achètent pas les penny stocks comme ça, mais on voit que même si les avis restent encore divergents, il y a une amélioration. Là, ils ont gagné un procès ça a été annoncé le 11 avril. Elle avait boosté ce jour-là. Elle est revenue en arrière. Elle forme, si vous voulez, une figure chartiste épaule-tête-épaule qui peut, si on franchit 0,50, nous amener, tenez-vous bien, enfin c'est possible, hein, parce que la volatilité est importante, vers 0,60, 0,75 et 1,15 à long terme. Donc il y a sur cette valeur des fondamentaux en nette amélioration, une configuration technique favorable, il n'y a pas encore le momentum de l'impulsion, mais voilà, c'est un dossier, je pense, à surveiller, qui peut représenter un intérêt. Alors, c'est spéculatif, bah, il faut y aller un peu plus doucement que quand on achète de l'air liquide, mais voilà, il y a un potentiel qui est très important sur CGG.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac qui est avec nous, trader pour compte propre pour Perceval Finance Conseil. On vous retrouvera dans une heure au fixing à la Bourse de Paris. Très belle séance en cours pour le CAC 40 qui est sur les plus hauts niveaux de la séance, à la porte des 8200 points pour le CAC 40 cash. 8187, c'est une hausse de 0,7%, tendance positive également ailleurs en Europe, plus 0,3 pour l'Eurostoxx 50, quand le DAX à Francfort est sur un record historique et gagne un peu plus d'1% à 18 688 points. Julien Marion est toujours avec nous pour notre site internet BFM Bourse avec, bah, on le disait en préambule, en sommaire, ce titre Airbnb qui est l'une des plus fortes hausses aujourd'hui dans le S&P 500. La valeur a perdu quasiment 9% à l'ouverture il y a une heure. Désormais, c'est une baisse de 6%. Julien, que se passe-t-il sur Airbnb?
Ouais, déjà, ils ont publié leurs résultats, il faut le rappeler. Hein. Des résultats qui d'ailleurs ne sont pas mauvais en réalité. Aussi bien le revenu que le bénéfice par action sont supérieurs aux attentes. Les volumes de réservation augmentent. Le tarif par nuitée aussi, un tout petit peu. Et c'est notamment dû au fait que Airbnb, en fait, ils sont en train d'essayer d'améliorer leur offre, notamment en termes de qualité. Et ça les a d'ailleurs amenés à radier toute une série. Ils parlent de milliers d'annonces qui ne correspondaient pas à leurs exigences. Alors, pourquoi ça baisse? Eh bien, il faut regarder du côté des prévisions pour le deuxième trimestre. La société indique tabler sur une croissance de ses réservations en ligne avec celle du premier trimestre. Donc, c'est une croissance de 9,5 à peu près. Sauf que le marché, il était à plus 12. Donc déjà, vous avez une déception. Et du coup, par ricochet, la prévision de chiffre d'affaires déçoit. Ils ont donné une fourchette et le marché, lui, était sur le haut de cette fourchette. Donc voilà. Et ce que suggère un peu ça, c'est qu'il semblerait que la période de forte croissance de post-pandémie, avec l'amélioration des conditions sanitaires, cette croissance très forte pour Airbnb, eh bien, elle n'est plus là.
On l'a vu notamment avec Disney, hein, qui a publié ses résultats en début de semaine. Et sur l'activité expérience, il constatait aux États-Unis, eh bien, que la frénésie de voyage, le travel revenge, commençait un petit peu à marquer le pas. Néanmoins, beaucoup de sociétés aimeraient faire 10% de croissance en ce moment. D'autant plus, Julien, qu'il y a des perspectives encourageantes. Déjà, c'est l'été, hein, donc c'est le plein boom pour le secteur du tourisme. Et puis, avec des événements importants, les JO à Paris, l'Euro 2024 en Allemagne, tout ça, c'est bon pour Airbnb.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. En fait, Airbnb dit que la croissance du troisième trimestre s'accélérera par rapport au deuxième, donc ils ne disent pas encore dans quelle mesure. Ils observent d'ailleurs à Paris qu'une hausse de 40%, ça c'était au premier trimestre, des offres en fait sur la période des JO par rapport à la même période de l'année dernière. Et en termes de réservations pour la période où se déroulent les Jeux Olympiques, il y a 5 fois plus de réservations, c'est ce qu'ils disent, que par rapport à la même période de 2023. Et d'ailleurs, en Allemagne, où il y a donc l'euro, comme vous l'avez dit, on est sur 2 fois plus. Donc vous voyez, effectivement, il semblerait qu'ils vont tirer bénéfice de ces deux événements. Eux, ils estiment qu'ils sont parfaitement, je vais faire un anglicisme, parfaitement bien positionnés.
Et donc, le nombre d'annonces à Paris pour Airbnb, en hausse de 40%, hein, c'est bien ça, pour la période des Jeux Olympiques. Bon, néanmoins, cette baisse aujourd'hui de Airbnb affecte l'ensemble du secteur du tourisme. Concrètement, Accor est de loin la plus forte baisse du marché parisien, moins 2,2%.
Oui, il semblerait que ce sont les investisseurs américains qui vendent, hein, tout simplement parce que la baisse, on a commencé à l'observer en fait à la mi-journée, lorsque les États-Unis se réveillent. Alors, c'est intéressant quand même qu'on parle d'Accor. On peut penser qu'il y a quand même des prises de bénéfices. Accor avait connu une très bonne année 2023. Elle était revenue dans le radar des investisseurs et le groupe est revenu en mars sur le CAC 40 à la place d'Alstom, dont on a beaucoup parlé hier. C'est intéressant d'évoquer Accor parce que c'est aussi censé être un bénéficiaire des Jeux Olympiques. D'ailleurs, Odo BHF avait sélectionné Accor dans une liste des 6 valeurs qui profiteraient le plus des deux événements, hein, JO et Euro 2024. Normalement, les JO de Paris, ils devraient soutenir Accor dans sa croissance du revenu par champ disponible. Vous savez, c'est l'indicateur principal du secteur dans l'hôtellerie. Selon Odo BHF, ce rêve part, comme on le dit, il devrait progresser de 4,3% cette année, avec 40 points de base, 0,4 points de pourcentage, c'est comme vous voulez, qui viendra des JO. Donc c'est de quoi conforter une opinion positive du courtier sur Accor, ils sont en surperformance, qui se traite avec une décote assez importante, hein, par rapport à ses pairs américains. On parle de 30%, quand a priori la décote historique elle est plutôt autour de 12%. Donc voilà.
Accor, donc, qui perd un peu plus de 2% dans le sillage de Airbnb, mais qui arrive à se maintenir au-delà des 40 euros, à 40,55 €. Puisque nous sommes à Wall Street, continuons de traiter, de regarder un petit peu les valeurs qui font l'actualité là-bas, avec notamment ARM, ARM, groupe britannique, hein, mais qui, on le rappelle, eh bien, Julien s'est introduit l'année dernière à Wall Street. Alors, le titre a perdu 8% quasiment tout à l'heure à l'ouverture. Et désormais, ça va beaucoup mieux, hein, comme pour Airbnb, le titre limite ses pertes, puisque désormais, c'est une baisse de 1,6%.
Ah oui, effectivement, il y a eu beaucoup de la volatilité aussi à Wall Street, un peu, peut-être.
En effet.
Ce qui est vrai, c'est que les perspectives ont déçu. Hein. C'est ça qui fait que le titre chute. Il parle de revenus autour de 3,8 milliards à 4,1 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2024-2025. Et c'est effectivement inférieur aux attentes. Alors, c'est vrai qu'ARM, c'était la grande introduction en bourse l'année dernière. Et si vous voulez, en fait, ces perspectives un peu décevantes, elles nourrissent les spéculations toujours un peu compliquées de est-ce que l'IA va pas ralentir? Est-ce que ce genre de choses? Bon, Bank of America, eux, ils nous disent, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. ARM est très bien positionné pour tirer parti de l'IA. Et je rappelle que vous avez souligné aussi le parcours boursier qui est exceptionnel. Hein. Quand on a un excellent parcours boursier, il suffit d'un petit raté. Quand même, c'est pas très inquiétant pour être sanctionné. Sauf erreur de ma part, on est à 106 $ à peu près, 105 $.
Oui, la valeur a doublé.
Oui, voilà ce que j'allais dire. Depuis son introduction en bourse, elle a plus que doublé. On était à 51 $ de mémoire.
Et donc, ce titre ARM qui perd du terrain aujourd'hui et qui plombe l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, puisque vous avez Nvidia qui perd 1,6%, quand TSMC de son côté perd 1%. Et cela explique la sous-performance du Nasdaq aujourd'hui. Un Nasdaq qui est stable quand le Dow Jones de son côté grappille 0,5%. Passons en Europe désormais, Julien, après notre chiffre du jour qui était donc consacré à ARM, avec le secteur bancaire qui bouge aujourd'hui en Europe. On a vu en début de semaine que BBVA voulait racheter une banque espagnole, Sabadell. Et là, aujourd'hui, ils passent aux choses sérieuses puisqu'on parle désormais d'une OPA hostile.
Tout à fait. Ils ont essayé d'y aller gentiment. Maintenant, ils passent en force. Donc, ils lancent une OPA. Et d'ailleurs, cette OPA, elle se fait au même terme qu'ils avaient soumis préalablement au conseil d'administration de Sabadell, qui avait refusé, car ils estimaient que ça ne valorisait pas suffisamment le potentiel de la 4e banque d'Espagne, Sabadell. BBVA, c'est la 3e. Et là, donc, comme vous l'avez dit, OPA hostile. Il va falloir convaincre les actionnaires de BBVA qui sont très éclatés, a priori. Il n'y a pas un actionnaire qui a plus de 4%. Donc, à voir. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que le gouvernement espagnol a déjà laissé entendre qu'il s'opposerait à cette fusion. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Enfin, on n'est pas spécialiste du droit espagnol, ni vous ni moi, on va pas se mentir. Mais donc, quelles sont les marges de manœuvre pour le gouvernement? Je veux dire, le régulateur, c'est la BCE. Il y a aussi les autorités de concurrence locales, mais le régulateur européen des banques, c'est la BCE.
Avec notamment un titre qui perd du terrain aujourd'hui. Quand on regarde le titre BBVA, il perdait quasiment 4% à la mi-journée. Oui. Donc le marché est frileux aussi quand même.
J'ai un peu du mal à savoir si c'est les doutes sur la fusion, si c'est le gros morceau, parce que c'est l'intégration lourde sur Sabadell pour BBVA, ou si c'est aussi parce qu'en fait elle se fait en titre, cette opération. C'est une opération entièrement en titre, en action. Donc potentiellement la dilution. Donc vous prenez tout ça, que ce soit l'un ou l'autre, on peut comprendre la réaction. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui explique le fait que cette fusion, cette opération d'achat soit loin d'être tractée, que Banco Sabadell, à côté, ça prend quasiment rien, ça prend 3%. Alors, ça avait un peu augmenté parce qu'il y avait des informations de presse qui avaient rapporté l'opération, mais là, on n'est qu'à 3%, alors qu'il faudrait faire normalement plus 18% pour se caler sur le prix.
En effet, donc le marché qui est en plein doute hein, par rapport à cette OPA hostile de BBVA sur Sabadell. Et d'ailleurs, suite à cette actualité, on vous a posé une question, auditeurs, téléspectateurs, sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter. Quelle était cette question, Julien ?
Alors, est-ce que c'est à la suite de cette OPA hostile hein, qui a été annoncée de BBVA sur Banco Sabadell, est-ce qu'il faut-il pour autant revenir sur les banques européennes et... On découvre avec vous le résultat et on a rarement vu ça, mais alors il y a une égalité parfaite entre le oui et le non.
Et ça reflète bien un petit peu le sentiment qu'il y a sur ce plateau, sur le secteur bancaire, avec beaucoup d'intervenants qui sont très positifs et puis aussi pas mal d'intervenants bah, qui restent toujours à l'écart de ce secteur bancaire. Il y a vraiment un mouvement bah, qui n'arrive pas à se créer. Hein. Néanmoins, on a une très belle performance hein, sur le secteur bancaire. Quand on regarde l'Eurostox Bank, hein, il gagne 20% depuis le début de l'année.
Oui, après, les Français ont tendance à sous-performer hein, cette progression, notamment à cause de la structure de taux hein, et la banque de détail en France qui a été plutôt un point faible hein, lors de la dernière lors de la publication du premier trimestre, alors qu'à l'inverse, elles avaient été un peu portées par la BFI. Contrairement aux résultats annuels, elles se sont bien comportées, hein, les actions. Alors je dis ça, alors que Société Générale s'est quand même pris à gadin, mais elles progressaient jusqu'à un call qui s'est mal passé. Mais donc, si je regarde dans l'ensemble, le premier trimestre, ça allait à peu près au niveau de la réaction de marché pour les banques françaises.
Et le secteur bancaire, d'ailleurs, on va en parler dans un quart d'heure avec nos deux invités du club, hein, Sébastien Corchia pour Cogefi Gestion et puis aussi Vincent Juvins pour JP Morgan Asset Management. Faut-il revenir sur le secteur bancaire qui, c'est vrai, dans l'ensemble, a publié des résultats au-dessus des attentes hein, au premier trimestre, plus 20% pour l'Eurostock Bank, quand en l'espace d'un an, il gagne désormais plus de 40%. Merci beaucoup Julien. Julien Marion qui nous accompagne pour notre site BFM Bourse. On vous retrouvera demain, même heure, à partir de 16h30 pour continuer de traiter l'actualité boursière économique qui est là, hein, malgré ce pont du mois de mai. Il y a de l'actualité en bourse. On l'a vu hier avec Alstom, on le voit encore aujourd'hui avec donc ce titre BBVA qui se distingue en Espagne ou encore Airbnb qui perd du terrain à Wall Street tout comme ARM. Tout de suite, c'est l'écho du monde.
BFM Bourse, l'écho du monde.
L'écho du monde, oui, car on a du pain sur la planche. Et c'est Gilles Mouek qui nous accompagne aujourd'hui, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles Mouek, merci de répondre à l'appel de BFM Business en ce 9 mai. Pour revenir bah, notamment sur cette décision de la Banque d'Angleterre hein, qui était attendue au tournant aujourd'hui. À 13h, elle a annoncé qu'elle laissait ses taux inchangés, mais son gouverneur a très clairement ouvert la voie à des baisses de taux.
Oui, la porte est largement ouverte. Alors, à noter déjà que deux membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre ont voté pour une baisse des taux dès aujourd'hui. Ce qui est intéressant, donc un de plus que la dernière fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des membres dits internes de la Banque d'Angleterre qui a rejoint un membre externe pour demander cette baisse de taux rapide. Donc, on sent que, voilà, il y a une certaine ébullition au sein de la Banque centrale britannique. Et dans son intervention, même s'il s'est gardé de promettre une baisse de taux au mois de juin, on a quand même senti que tout concourait maintenant à ce que la Banque d'Angleterre puisse commencer à réduire un peu le niveau de restriction de la politique monétaire. De toute manière, on va probablement dans les deux mois qui viennent voir une baisse assez accusée de l'inflation pour des raisons essentiellement techniques hein, qui tiennent au calendrier de l'évolution des prix de l'énergie. Mais ça va probablement créer la fenêtre d'opportunité pour que la Banque d'Angleterre commence à baisser ses taux. Elle va, je pense, rester prudente parce que on a toujours des signaux du marché du travail, en particulier au Royaume-Uni, qui sont des signaux de robustesse, avec une augmentation des salaires qui est tout à fait sensible. Donc je ne pense pas que la Banque d'Angleterre ira nécessairement très vite, mais voilà, la direction du voyage est maintenant assez claire.
Avec notamment des prévisions d'inflation qui ont été revues à la baisse, hein, puisque désormais la BOE prévoit 2,6% d'inflation contre 2,8%. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, pour l'Angleterre, puis c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Europe dans son ensemble. Hein, ça confirme un petit peu la dynamique de la BCE.
Oui, on sent que dans toute l'Europe, la direction est assez convergente. On a eu une première baisse de taux de la Banque nationale suisse il y a quelques semaines. On a eu la Banque centrale suédoise hier qui a qui a baissé ses taux de 25 points de base et qui a décidé de ne pas attendre la BCE, alors même qu'on sait que pour des raisons de contrôle de son taux de change, la Banque Centrale Suédoise cherche en général à limiter le plus possible la BCE. Là, elle fait le mouvement sans attendre. Bon, la situation macroéconomique de la Suède est beaucoup moins bonne que celle de la zone euro, mais je trouve que le signal est intéressant. Donc là, on est face à une espèce d'émancipation monétaire de la part des banques centrales européennes. Les signaux en provenance de la BCE sont également assez clairs pour une baisse des taux au mois de juin. Donc on aurait toutes les banques centrales, les grandes banques centrales européennes, alignées avec des baisses de taux assez synchrones sur le mois de mai ou le mois de juin. Donc ça laisse quelque part la Fed dans une espèce de splendide isolement. Même si on s'aperçoit que les toutes dernières données conduisent quand même à plutôt attendre là aussi le début de la baisse des taux du côté des États-Unis, finalement peut-être un peu plus rapidement que ce que le marché s'était mis à attendre il y a maintenant 2 ou 3 semaines où la grande discussion sur le marché c'était l'impossibilité peut-être pour la Fed de baisser ses taux du tout en 2024. Je pense qu'on a regagné un peu plus de confiance dans le marché.
Avec notamment Jerome Powell, on se souvient lors de sa réunion du 1er mai, qui a exclu des hausses de taux. Ça a vraiment rassuré le marché et c'est impressionnant de voir l'obligataire aux États-Unis qui s'est détendu d'une façon assez spectaculaire quand même.
Oui, c'est vrai. Alors, on a des mouvements de gouvernail du marché s'agissant de la Fed qui sont un tout petit peu trop amples, honnêtement. Au début de l'année, on avait un marché qui s'attendait à beaucoup trop de taux de la part de la Fed. Je pense que c'était totalement irréaliste de compter sur 150 points de base de baisse qui était ce que le marché attendait encore au mois de janvier. Mais de manière asymétrique, le grand stress d'il y a 2 ou 3 semaines avec ces discussions effectivement encore minoritaires, mais elles étaient quand même intéressantes de la possibilité d'une hausse des taux de la part de la Fed, ça avait poussé les taux longs très nettement à la hausse. On avait touché les 4,75%. On est repassé en dessous de 4,5%. Et je pense que ça fait sens parce que c'est vrai qu'à la différence de l'Europe, les États-Unis font face à des signaux du côté de l'inflation qui sont quand même moins clairs. On a eu 3 mois de mauvaises données du côté de l'inflation aux États-Unis, alors que du côté européen, les choses vont quand même plus clairement dans la bonne direction. Donc, que la Fed prenne son temps, ça me paraît tout à fait juste et normal. Maintenant, de là à s'attendre à ce que la Fed ne puisse pas du tout baisser ses taux cette année, ça me paraît assez exagéré. On a eu un PIB au premier trimestre qui était un tout petit peu faiblard, si je puis dire, en tout cas qui était en deçà du taux de croissance potentiel de l'économie américaine pour la première fois depuis la fin 2022. On pouvait dire c'est accidentel, mais depuis lors, on a eu des enquêtes, par exemple l'enquête ISM, qui est assez mauvaise, à la fois dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. On a une confiance des ménages qui s'est dégradée aux États-Unis, et puis on a eu ces informations sur le marché du travail, qui reste relativement robuste, mais avec une décélération des salaires assez notable pour le mois d'avril. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que les ingrédients sont doucement en train de se mettre en place pour que la Fed puisse baisser ses taux au mois de septembre. Ce qui fait que, à quelques mois près, on aura finalement une assez grande convergence du côté de l'Atlantique.
Et du côté des anticipations de baisse de taux, quel est votre scénario chez AXA? Alors c'est, comme vous l'avez dit, très variable. On voit notamment sur FedWatch que ça bouge de jour en jour, mais il y a une petite majorité qui semble voir une baisse de taux dès le mois de septembre.
Ça, c'est mon cas. Jusqu'à très récemment, on s'attendait à ce que la Fed puisse baisser ses taux au mois de juin. Ça paraît maintenant évidemment très difficile. Donc c'est septembre qui est maintenant notre baseline, qui sera suivi par une baisse supplémentaire de 25 points de base au mois de décembre. Donc 2 baisses de taux sur 2024. Et par rapport à là où est le marché aujourd'hui, donc le marché est à peu près à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on a un peu moins de baisses de taux qui sont pricées pour 2024. Moi, je suis un peu plus confiant et je pense, par exemple, qu'on pourrait avoir un signal assez net de la Fed dès le mois de juillet, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de baisse de taux effective de la part de la Fed, mais que le discours de Jay Powell soit si clair que la baisse de taux du mois de septembre devienne vraiment presque gravée dans le marbre.
Comment vous voyez aujourd'hui les marchés actions évoluer, sachant, je le disais en préambule, qu'ils sont sur des plus hauts historiques en Europe? Du côté de Wall Street, ça tient très bien également, alors qu'il y a encore pas mal d'incertitudes sur le plan monétaire, sur le plan politique aux États-Unis. Bref, on a quand même un marché actions qui est très résilient en ce moment.
Alors, du côté européen, ça ne me surprend pas nécessairement parce que on avait une valorisation de marché actions en Europe qui était quand même relativement déprimée par rapport à ce qui se produisait aux États-Unis. Et comme on a l'impression d'un certain rééquilibrage sur la conjoncture, on a plutôt eu une bonne surprise sur le PIB dans la zone euro au premier trimestre. On a plutôt l'impression qu'on est en train de passer un peu de l'autre côté de l'ornière du côté européen, même si je m'attends à des chiffres encore assez médiocres. Donc cette bonne tenue du côté européen ne m'étonne pas vraiment. Du côté américain, là j'ai un peu peur qu'il y ait un enthousiasme un peu exagéré, parce que certes, la perspective de baisse de taux est bienvenue et va bien évidemment soutenir les cours des actions qui sont les plus sensibles qui sont les plus endettées, qui sont les plus sensibles aux taux d'intérêt. Mais pour qu'il y ait baisse de taux de la Fed, il faut qu'il y ait ralentissement de la croissance. Et normalement, un ralentissement de la croissance s'accompagne de mauvaises nouvelles du côté des résultats des entreprises. Et c'est ça qui me chagrine un tout petit peu dans le comportement du marché aux US. Cet oubli, quelque part, que pour que la Fed baisse ses taux, ce qui est effectivement centrale et aujourd'hui la zone centrale du marché, mais il faut qu'on passe par une phase de croissance faible aux États-Unis. Et ça n'est pas complètement cohérent avec les valorisations actuelles.
Donc plutôt prudent sur la zone Amérique. Et sur les taux, quand vous voyez des taux à 4,50, bon, le plus gros est fait. Normalement, les taux longs devraient refluer cette année.
Oui, mais je pense là, c'est un peu la même chose que sur le marché d'action. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore tellement de grains à moudre sur la baisse des taux longs. Parce qu'un point qui, moi, me paraît quand même très important dans tout ça, c'est que même s'il y aura le début d'une baisse des taux de la part des banques centrales, je pense que cette baisse sera contenue, sera très mesurée, que le taux terminal, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel on arrivera à la fin du cycle de baisse, restera beaucoup plus élevé que les niveaux auxquels on était habitués avant le Covid. Et puis surtout, on est toujours dans une phase où les déficits publics, en particulier les États-Unis, sont extrêmement élevés. Et ça se traduit par une offre obligataire aux États-Unis qui est absolument massive, qui est forte aussi en Europe, mais qui est absolument massive aux États-Unis. On se dirige vers des élections en novembre, bien évidemment. Et du côté des Républicains, par exemple, les projets sont là, d'une prolongation des baisses d'impôts qui avaient été consenties en 2017, qui accroîtraient encore le déficit et donc la pression sur le marché obligataire. Donc je pense que là, le potentiel de baisse, encore une fois, sur la partie longue de la courbe est peut-être un peu limité.
Dernière question, quels sont les signaux, les événements que vous surveillez, les points d'attention aujourd'hui que vous pouvez communiquer pour nos auditeurs téléspectateurs?
Je pense que la clé, elle est vraiment dans le marché du travail américain. C'est ça qui sera, pour moi, le signal le plus important pour la Fed, qui permettra de débloquer, en fait, la situation. Et pour l'instant, donc, on a eu une première indication avec des payrolls du mois d'avril qui était décevant. Maintenant, c'est une série qui est très volatile, mais c'est celle que tout le monde va regarder de plus près. Si on s'aperçoit que les chiffres du mois de mai, ceux du mois de juin confirment cette tendance au ralentissement du marché du travail, là, on pourra, de manière beaucoup plus libre, presser des baisses de taux de la Fed. C'est vraiment là où tout se joue. C'est sur cette résilience, pour l'instant, assez surprenante du marché du travail américain. Si ça devait prendre fin, ce qui est mon scénario central, on pourra vraiment s'attendre à des baisses de taux relativement rapides.
Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA, qui nous accompagnait il y a une heure afin de revenir sur la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir ses taux inchangés, mais en ouvrant très clairement une voie sur des baisses de taux et puis sur les anticipations des baisses de taux de la Fed. Ces anticipations, on en reparle dans un instant. Très courte pause, le flash de 17h, et puis ensuite, c'est le club qui va s'ouvrir avec Sébastien Corchia de Cogefi Gestion et puis Vincent Juvins de JP Morgan Asset Management. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.